Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambille.
Adiciat, et bienvenue dans votre émission Page à Page, où nous nous retrouvons comme chaque jeudi de 9h30 à 10h sur les ondes de Radio Occitanie. Alors aujourd'hui, je reçois Arnaud Rickner, bonjour.
Bonjour.
Pour son dernier roman intitulé Enfant perdu et publié aux éditions du Rouergue à Rodez, mes éditions dont on en parlera un petit peu avec lui et de son roman, bien sûr. Mais comme à l'accoutumée, quelques petites infos. Tout d'abord, pour vous rappeler que ce soir, jeudi 5 mars à 18h30 à l'Instituto Cervantes, 31 rue des Chalets à Toulouse, il y a une rencontre entre Catherine Cusset et Zoé Valdès sur le thème « L'image de la femme et son écriture, la féminité dans les textes ». C'est un débat animé par Jean-Antoine Loiseau qui viendra prochainement au mois d'avril nous parler du 10e salon du livre francophone de Balma. Et puis cette rencontre est donc organisée par le Centre Régional des Lettres de Midi-Pyrénées et ainsi qu'avec l'Instituto Cervantes. Donc l'entrée est libre, n'hésitez pas à y aller, c'est ce soir à 18h30. Ensuite, demain, un petit rappel encore, demain vendredi 6 mars à 19h, là c'est à Rabastens, au Bar des Sports, une apéro-lecture organisée par l'association La Presse à Réaction, c'est tous les premiers vendredis du mois, je vous le rappelle. Donc demain soir, l'auteur invité c'est Béatrice Corivenc pour son premier roman « À coups de griffes ». Donc n'hésitez pas, si vous êtes du côté de Rabastens ou même si vous êtes à Toulouse, ce n'est pas très loin, n'hésitez pas à les découvrir. Cette jeune auteure. Ensuite, une expo qui est à la galerie de la Halle aux Poissons en ce moment, à Toulouse, dans la Descente aux Poissons. C'est une expo de Yann Taillefer sur son œuvre Ito. Donc c'est à venir découvrir l'univers très insolite de Yann Taillefer, qui est auteur de BD, jeune auteur toulousain, qui a déjà publié Ruth, un album sans texte, aux éditions des Requins Marteaux. Et donc il vient de réaliser Ito avec les éditions du Dernier Cri. Donc c'est un univers très particulier que vous pouvez découvrir à cette exposition qui a lieu jusqu'au 7 mars, donc jusqu'à samedi. Il est encore temps d'y aller faire un tour. Et je vous signale que Yann Taillefer sera mon invité très prochainement et on pourra comme ça un peu découvrir cet univers très particulier qui le hante, avec des étranges créatures organiques qui suivent leurs instincts primaires et se perdent dans des cycles absurdes sans fin, de gestes répétitifs. Donc c'est très très particulier, c'est à découvrir donc à la galerie de la Halle aux Poissons à Toulouse. Et puis je terminerai cette page d'info en vous rappelant, enfin non, en vous disant, je ne l'ai pas encore dit, qu'une rencontre avec Pascal Dessin aura lieu le 12 mars, c'est-à-dire jeudi prochain à 18h à la librairie Ellipse qui se situe 251 route de Narbonne, c'est en fait à l'entrée de Ramonville sur la droite. La librairie Ellipse est tenue bien sûr par Philippe Blom qui vient chaque année nous présenter en avant-première le salon de Montgiscard qui a lieu chaque année au mois de janvier. Et donc vous pourrez découvrir le dernier roman de Pascal Dessin qui s'appelle « L'appel de l'huître, chroniques vertes et vagabondes » aux éditions Rivage. Donc c'est le jeudi 12 mars à 18h à la librairie Ellipse.
Page à page, Claire Ambille.
Justement, on parle de Montgiscard. C'est là que je vous ai rencontré, Arnaud, hein, au salon de Montgiscard de janvier dernier. Donc avec ce nouveau roman, Enfant perdu, parce que vous en avez déjà quelques-uns à votre actif. Alors Arnaud Rickner, vous êtes né à Paris. Vous avez fait vos études de lettres également à Paris. Et puis donc vous êtes...
Une sorte d'immigré, quoi.
Voilà, Toulousain d'adoption, comme beaucoup parmi nous, hein, finalement. Donc vous avez également un parcours théâtral, hein, vous êtes un passionné de théâtre.
Tout à fait, oui.
Avec un stage au cours Florent et puis après dans une autre compagnie théâtrale. Et puis aussi assistant de Claude Régis et son dramaturge également.
Pendant 5 ans.
Et Claude Régis qui vous a présenté, qui vous a été présenté par Nathalie Sarraute.
Voilà, c'est ça.
Donc vous avez connu Nathalie Sarraute.
Voilà, j'ai été son amie pendant une petite dizaine d'années, disons.
Et donc vous êtes auteur aussi également de mises en scène théâtrales qui ont été jouées au TNT donc à Toulouse en 1999 et en 2001.
Voilà, la dernière c'est 2001.
La dernière c'est 2001.
On commence déjà à faire loin.
Il y en a d'autres de prévus ?
Pour l'instant, non.
Non, pour l'instant, non.
Les difficultés financières font...
Oui, la crise, c'est la crise voilà. Partout. Et alors, donc, vous êtes également metteur en scène, puisque vous avez monté des textes de Cocteau, de Sarraute, justement, de Maeterlinck et de Dominique Hubin ?
Oui. Qui était une comédienne de Claude Régis que j'avais rencontrée par ce biais-là, justement, et que j'avais mise en scène.
D'accord. Et alors, bien sûr, inutile de dire, enfin, on va le comprendre quand je vais parler du roman, vous aimez Marguerite Duras, enfin, l'œuvre de Marguerite Duras.
Oui, même si pour ce roman-ci, je pensais m'en être un petit peu émancipé, mais apparemment non, parce que tout le monde la retrouve.
Donc. Ça a été la première chose que je me suis dite en lisant les premières pages de ce livre. Je dis, ah tiens, je retrouve un peu du style de Marguerite Duras. Bon, j'ai beaucoup aimé votre roman, j'ai oublié de le dire au début. Mais voilà, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Donc, vous êtes auteur également donc, de romans, ensuite, donc metteur en scène, enfin voilà, et puis donc, mais aussi auteur de romans. Hein, avec, et vous dites d'ailleurs que c'est un peu la même chose, car quand on met en scène, on met en scène ses fantasmes, ses rêves, son inconscient, et qu'on essaye d'aller pêcher avec des mots et qu'on les donne à voir ou à explorer par l'écriture. Donc, en fait, vous mettez un parallèle.
Voilà, il y a une vraie continuité entre les deux pratiques, sauf que l'écriture reste un peu une pratique. Que j'ai envie de dire solitaire, on n'est pas soumis à des contingences matérielles comme dans la mise en scène.
Oui, parce que bon, l'écriture, même si on a envie d'être publié, c'est quand même pas la chose première qui...
Voilà, on peut commencer à écrire sans avoir déjà de l'argent pour faire travailler les comédiens, par exemple.
Tout à fait, parce que voilà, la mise en scène, voilà, c'est obligé d'avoir tout un tas de personnes. Donc voilà, l'écriture, effectivement, c'est peut-être plus facile, enfin entre guillemets, même si un jour, bon, bah, la publication, on a envie quand même d'aller vers les autres et de faire connaître ce qu'on écrit.
Oui,
ça reste
certain.
Pas dans des tiroirs.
C'est certain, oui.
Et alors ensuite, donc vous dites aussi que vous ne connaissez pas celui qui écrit. Alors on pourrait penser que comme si vous étiez un peu dédoublé, enfin entre guillemets.
Bon, ça c'est un petit peu un cliché, mais c'est vrai que quand on écrit, il y a une vraie schizophrénie. Enfin, personnellement, j'essaye de préserver cette schizophrénie, de ne pas savoir celui qui écrit, que celui qui écrit ne soit pas le même que celui qui vit dans la vie courante, ou peut-être si c'est le même à un autre niveau, disons, à un niveau inconnu de lui-même et des autres.
D'accord, donc il y a une sorte vraiment de clivage entre les deux. C'est un peu l'autre avec un A majuscule qui prend le pas dans l'écriture.
En tout cas, c'est ce que j'aimerais que ce soit. C'est-à-dire l'autre en moi, l'autre à côté de moi.
Parce que vous dites que même vos amis ne vous reconnaissent pas quand ils lisent vos livres. Ils se disent, mais
oui, ça,
c'est pas le même Arnaud qu'on
voilà.
connaît.
Oui. C'est toujours très troublant.
Et c'est ça qui vous plaît, qui vous fait perdurer dans l'écriture, enfin qui vous fait continuer.
Je pense que si j'adhérais trop facilement à l'image que les livres donnent de moi dans la vie, si les deux coïncidaient, je pense qu'à un moment ça ne serait plus intéressant. Ça ne me ferait plus rien découvrir.
Et c'est Claude Régis aussi qui vous a aidé à justement appréhender cette ne pas savoir, ne jamais être conscient.
Oui, puisque j'ai un parcours, disons, très classique au niveau de la formation, un parcours littéraire, vous l'avez dit, et on a plutôt tendance à vouloir savoir, à vouloir comprendre, à analyser. C'est d'ailleurs un des énormes défauts de l'université d'aller tout le temps dans cette compréhension, dans cette analyse. Alors que l'écriture, c'est l'inverse. Il faut savoir se défaire de tout ce qu'on croit savoir. Le théâtre, c'est pareil. Il faut savoir se défaire de ce qu'on croit savoir du théâtre.
Et pour laisser aller un peu l'inconscient, justement.
Voilà, laisser remonter des forces qu'on ne maîtrise pas. Il y a une pratique qui est celle de l'école, de l'université qui est dans la maîtrise. Je ne dis pas qu'elle n'est pas nécessaire, mais en tout cas, ce n'est pas la pratique de la création.
Donc, de vos études littéraires, vous n'avez pas voulu garder ce côté justement cadré.
Alors, disons, je sais parfaitement qu'elle me rattrape malgré moi, dans un endroit que je n'ai pas trop envie de connaître. Mais justement, donc, c'est pour ça que je cultive cet autre lieu où il n'y a pas la maîtrise, il n'y a pas le savoir, il n'y a pas la compréhension.
Il n'y a pas de limite, voilà.
Et du coup, ça devient une limite. Enfin, on essaye que ce soit le plus illimité possible dans l'imaginaire.
Alors, votre premier roman, Mon roi et moi, donc, c'est finalement, enfin, ça, c'est pas finalement, je veux dire, c'est les éditions du Rouergue qui l'ont édité, d'ailleurs, comme tous les suivants. Hein,
voilà, puisque je suis resté.
Vous êtes resté fidèle à cette maison d'édition, à Sylvie Gracia.
Peut-être aussi parce que cette maison d'édition m'est restée fidèle, c'est vraiment une histoire d'amitié très forte.
C'est par Ombre Blanche que vous avez, enfin par un tas de biais, mais enfin.
Oui, tout à fait. Non, c'est pour ça que c'est une histoire assez toulousaine finalement, en tout cas Midi-Pyrénées vraiment, puisque j'ai porté le manuscrit à Ombre Blanche et Christian Torel l'a passé à un de ses libraires de l'époque, Jérôme Bell. Et puis, de fil en aiguille, c'est arrivé sur le bureau de la directrice du CRL qui a voulu le remettre aux éditions du Rouergue. Et voilà, ça s'est fait comme ça.
Un conte de fées.
Il y a un côté magique. J'ai cette chance d'avoir toute une série de rencontres dans ma vie qui sont des rencontres vraiment magiques.
Ah, bah ça, c'est magnifique, oui, effectivement. Ça. Donc, pour ce premier roman, donc les éditions du Rouergue, et puis donc pour les suivants également. Vous allez souvent à Rodez pour écrire, vous êtes tranquille là-bas, ça vous plaît.
Voilà, les éditions du Rouergue ont un petit domaine, on peut dire, oui. Enfin une maison assez vaste, c'est normal puisque c'est une maison d'édition qui a besoin de place. Il y a un grand parc et on peut se retirer vraiment, c'est à côté de Rodez et ça domine Rodez.
Ça vous inspire, enfin voilà. Ça
c'est surtout que ça coupe de tout le reste.
Ça vous coupe de Toulouse, voilà, et puis de votre...
De tous les ennuis.
Tout à fait. Donc justement, on parlait de livres, donc Mon Roi et moi, donc c'est le premier, hein, il a été publié donc aux éditions du Rouergue en 1990.
99, je crois, oui.
99. Oui. Ah oui, mais alors j'ai dû faire une erreur de...
Oui, puisque la collection littéraire a commencé en 98, et donc c'était la deuxième série, si je puis dire, puisque trois premiers livres étaient sortis, et celui-ci était parmi les trois suivants.
Oui, donc oui, parce que le suivant arrive tout de suite derrière, en 2000, avec Je ne viendrai pas.
Oui.
Donc c'est ça, oui, c'était bien 99 et 2000, voilà. Blanche, ensuite, en 2004. Donc là, s'est passé un petit peu plus de temps entre les deux.
C'est-à-dire que le premier, 99, il n'a pas été écrit en 99. Il remontait déjà fin des années 80, puis il s'est transformé un petit peu, mais il a mis du temps avant d'être achevé, d'être publié, tout simplement.
Alors après, donc, Blanche, on a Nure en 2007, et après, donc, Enfant perdu en 2008. Et justement, vous me disiez que Enfant perdu, en fait, a été commencé avant Nure, hein, il a été commencé en 2004.
Voilà, et en janvier 2004.
Voilà, en janvier 2004. Et puis bon, au cours de l'écriture, il y a eu un moment où, bon, vous avez un petit peu bloqué, entre guillemets. Et puis, il y a le roman Nure qui s'est imposé. Donc, vous avez finalement écrit Nure avant de terminer Enfant perdu.
Et Nure m'a permis de passer à un autre stade. Donc, entre janvier 2004 et janvier 2009, date de l'apparition d'Enfant perdu, au milieu, il y a eu cette espèce de parenthèse qui est celle de Nure, qui m'a permis de régler peut-être certains un problème que je n'arrivais pas à affronter dans Enfant perdu.
Et qui vous a permis donc de le terminer, finalement.
Et de terminer, du coup, Enfant perdu. Je pense que c'était le rapport à la fiction, l'implication personnelle et la fiction. Le fait que la fiction se nourrit de ce qu'on vit, mais en même temps, la fiction est précisément la fiction. Donc, comment
il doit rester la fiction aussi.
Voilà. Comment faire de la fiction ce que Aragon appelle le mentir vrai, c'est-à-dire à la fois du mentir et de la vérité.
Vrai quand même.
Et à la fois de la vérité et en même temps du mentir.
Et donc Nure, alors oui, c'est vrai, ça s'écrit Nure, mais ça se prononce Nure, hein, parce que c'est en arabe, ça veut dire lumière, c'est ça?
Alors au début, c'est en allemand, ça veut dire seulement. C'est l'idée de... Enfin, c'est... Bon, il y a une généalogie, mais peu importe.
C'est l'idée histoire d'amour. Hein,
voilà, qui dure quelques jours, peut-être 10 jours. Et donc seulement ce temps-là, seulement cette rencontre, et en même temps ce seulement renvoie à l'inverse, à une forme de rencontre avec l'absolu. Donc, or, il se trouve qu'en arabe, je ne le savais pas en écrivant le livre.
Ce mot existe aussi.
Ce mot existe aussi, prononcé ainsi, en tout cas, nour, et veut dire la lumière.
D'accord.
Donc, d'une certaine façon, c'est seulement la lumière. C'est-à-dire, c'est les deux pôles. C'est le seulement, peu de jours, et l'absolu.
L'absolu avec la lumière.
On peut rencontrer.
Ça me rappelle, là aussi, ça me renvoie à un roman de Marguerite Duras. Je ne sais pas si vous le connaissez certainement, Yeux bleus, cheveux noirs.
Bien sûr, oui, tout à fait, qui est une plus ou moins une année.
C'est une histoire aussi d'amour très courte.
Et dans un lieu fermé, puisque c'est une adaptation de la maladie de la mort. Et là, je pense que ce texte de Duras était présent à certains moments, je pense, remonter à la surface quand j'écrivais Nour, c'est certain.
Oui. Et alors après, donc, voilà, donc Enfant perdu, donc en janvier 2009, c'est ça, fin décembre.
Ils viennent de paraître, 2009, oui.
Ils viennent de paraître. Et après, vous avez édité, donc ils sont tous édités à Rouergue, et après, vous avez édité aussi des essais et des éditions critiques chez José Corti, au Seuil et chez Gallimard.
Voilà. J'ai commencé par des essais qui sont parus chez José Corti il y a déjà maintenant plus de 20 ans, ça finit par faire. Et puis après, une pléiade chez Gallimard, des folios, enfin bon, des petites choses comme ça.
Voilà, donc vous écrivez beaucoup.
Pas tant que ça, non, malheureusement.
Pas autant que vous voudriez.
Pas autant que je voudrais, en tout cas, peut-être pas autant ce que je voudrais.
Ah! Alors, Enfant perdu, donc aux éditions du Rouergue, 2009. Alors, c'est un roman qui est très, comme je l'ai dit, moi, c'est vraiment un coup de cœur, hein, vraiment. J'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, c'est un roman très court. Hein, il fait 93 pages, mais il fait 43 chapitres. Hein. On pourrait se dire, oh là là, 43 chapitres, c'est énorme. Mais en fait, les chapitres sont très, très courts.
Ce sont des petits instants.
Ce sont des petits instants, voilà. C'est en fait 43 petits instants sur 93 pages, donc qui est relativement court, hein, pour un roman. Mais alors, c'est un roman concentré. Concentré, hein, c'est du concentré, avec une émotion retenue, hein, pudique, épurée, hein, dans le style comme dans l'histoire, hein, on va le voir, et avec donc cette force contenue qui lui donne toute sa force imposante, hein, finalement. Parce que le peu de mots le peu de phrases, finalement, ça ne fait que ressortir l'imposante émotion qui s'en dégage.
Bah, j'aimerais que ce que vous dites soit vrai. Enfin,
ah mais oui, mais c'est vrai, c'est vrai.
J'espère
ce que
c'est
dis.
Vrai. J'espère que c'est vrai, mais disons que
c'est ce que j'ai ressenti en tout cas.
Bah, c'est ce que j'essaye de faire. Alors ça tient peut-être aussi au peu de temps que j'ai pour écrire et aussi au fait que j'ai beaucoup de temps pour que ça mûrisse. Donc
voilà, vous mettez du temps à les écrire.
Voilà, donc mais inversement, quand ça vient, il y a une certaine densité. Mais celui-ci est le plus long de ceux que j'ai fait. Donc, vous imaginez les précédents.
Les autres, oui. Alors, en prologue de ce livre, Enfant perdu, il y a une phrase d'Elie Wiesel que vous avez inscrite. Je la lis. Il m'expliquait avec beaucoup d'insistance que chaque question possédait une force que la réponse ne contenait plus.
Oui, c'est cette idée qui m'est vraiment très chère et qui me vient peut-être aussi d'un autre ami qui est Henri Méchonic, que l'idée que la question, et dont j'ai trouvé bien une trace très belle chez Elie Wiesel, l'idée que la question est bien plus importante que la réponse. Or, on ne cesse de nous asséner des réponses de partout, et j'ai un métier qui fait que je suis censé, on croit que je suis censé, puisque je suis prof, donner des réponses, alors qu'au contraire, j'essaie de chercher les questions. Les questions auxquelles on croit avoir des réponses.
C'est de la philosophie, ça. On retrouve un peu les études de l'être.
Non, je crois que c'est à l'inverse. Non, je crois que c'est presque l'inverse de la philosophie. Enfin, c'est plus nous défaire, en tout cas, de tout notre savoir, de tout ce qu'on a pu. Alors, c'est peut-être une attitude philosophique.
Oui, parce que le questionnement, enfin, que la question soit plus importante que la réponse, ça me fait penser un peu à.
Bah, dès qu'on a la réponse, ça n'est plus intéressant. Et puis souvent, on croit avoir la réponse, mais on ne sait plus de quoi c'est la réponse. Donc,
oui, tout à fait, c'est vrai. Donc c'est un roman plein de, je dirais, plein de silence, mais de violence hein, aussi. De violence non dite. Hein.
Oui, parce que la violence est peut-être ce qui est venu en premier avec le texte d'ouverture de ce livre. Et puis l'âge de l'enfance n'est pas un âge particulièrement doux. C'est un âge très complexe, très, très mêlé. Et je pense que la violence en fait partie, mais c'est la violence même des sentiments d'ailleurs, de tout sentiment. La douceur est peut-être ce qu'il y a de plus violent. La douceur de l'enfance est peut-être ce qu'il y a de plus violent.
Donc justement, voilà, c'est un roman avec plein d'enfance perdue, hein, de la difficulté de grandir, je dirais, et puis de toute la complexité de la vie finalement.
Oui, de rencontrer cette complexité et de faire avec. Comment on peut vivre avec cette complexité, alors peut-être qu'au départ on a tendance à penser que tout est simple, et puis le moment où on s'aperçoit que c'est vraiment compliqué, ça devient plus ou moins invivable. Et soit on arrive à passer le cap, soit on n'arrive pas.
Soit on n'y arrive pas, voilà. Il y a ceux qui y arrivent et ceux qui n'y arrivent pas. Alors le titre, Enfant perdu, alors au départ, ça s'appelait juste Enfant. Alors c'est Enfant perdu au pluriel, hein, je précise pour les auditeurs. Et donc au départ, le titre, c'était juste Enfant au pluriel. Et puis vous avez rajouté Perdu.
Oui, parce que je ne savais pas, comme je ne sais jamais, malheureusement ou heureusement, quand je commence, je ne sais pas du tout ce qui se passe ensuite. Il y a une vraie aventure de l'écriture. Et le livre me sert à ça. Et donc, au début, c'était d'abord ces figures d'enfants. Et la perte que raconte ce livre m'est apparue petit à petit. Et donc, le titre est venu complètement à la fin. Enfin, le titre final, le titre complet, Enfant perdu, est venu à la fin.
Oui, pour dire voilà, que l'enfance perdue, que quand on passe l'enfance, enfin l'adolescence hein, plus exactement, la fin de l'enfance et puis pas encore vraiment le début de la vie d'adulte finalement, c'est cette période charnière qui est très, très difficile. Hein,
oui, c'est ça, c'est-à-dire c'est à la fois l'enfance perdue et des enfants qui sont perdus au milieu des adultes, au milieu de la vie d'adulte, ou qui ne veulent pas franchir ce passage de la vie d'adulte. Mais peut-être aussi que les adultes sont eux-mêmes des enfants perdus dans leur vie d'adulte.
Tout à
donc
fait.
Ça s'est fait comme ça, c'est souvent le langage aussi plus fort que nous, il y a cette ambiguïté du terme.
Mmh. Alors c'est, donc comme je disais, c'est un roman qui est superbement écrit, à la fois poétique et incisif. Alors les phrases sont très courtes parfois, et aucun nom de lieu, aucun nom de personnage, hein, un peu comme dans certains livres de Marguerite Duras, hein, pas de détails, hein, c'est rien n'est nommé. Alors après on imagine, hein, on peut imaginer le lieu parce qu'il y a des petits indices, mais voilà, aucun nom de personnage. Et c'est un roman donc, comme je disais, sur les difficultés du mal-être et puis du désespoir aussi, qui peut conduire parfois au néant aussi.
Mais aussi, au-delà du désespoir, il y a aussi, je crois, une forme de rencontre, là aussi une rencontre de l'absolu. Donc ça n'est pas un roman... Je ne pense pas que ce soit un roman désespéré.
Non, je pense il est difficile, mais non, effectivement, il n'est pas désespéré.
Il y a toute une série de rencontres, et puis cette expérience de l'enfant lui-même me paraît parfois, aussi douloureuse soit-elle, me paraît lumineuse.
Et bon, c'est quand même poignant et fort. Moi, j'ai trouvé que bon, c'est un livre qui ne laisse pas indifférent, dans le sens où bon, ça hante le lecteur. Moi, ça m'a hanté même après avoir refermé le livre plusieurs jours après. Hein. On est imprégné quoi de ce que vous avez écrit de toute cette histoire.
C'est vrai que c'est ce qu'on
ça reste,
un peu,
oui, ça reste en mémoire. Et donc pendant toute la lecture, en fait, on attend quelque chose, on sent qu'il va arriver quelque chose, et c'est ainsi jusqu'aux dernières pages, même jusqu'à l'avant-dernier chapitre, donc jusqu'au chapitre 42 exactement. Et là, bon, voilà, après il se passe quelque chose. Et malgré cette sensation, donc cette attente, le dénouement quand il arrive, il est tellement intense que je trouve qu'il nous laisse sans mots, sans voix, même. Même si on s'attend à quelque chose, mais ça nous laisse, je dirais, comme pantelant, quoi, un peu pantelant d'émotions.
Oui, finalement, on retrouve peut-être à la fin cet état d'enfance. L'enfance, au départ, c'est celui qui ne sait pas parler. Et on s'aperçoit que l'enfance, c'est peut-être tout un apprentissage de savoir mettre de côté toutes les paroles et encore une fois toutes les réponses. Et au bout du compte, il devient peut-être vraiment enfant dans cette acceptation du ne pas savoir. Et d'une forme de lumière incompréhensible.
Et alors donc, je vais lire un petit peu la quatrième de couverture pour donner une idée à nos lecteurs, si toutefois je la retrouve. Voilà, je l'ai, quatrième de couverture, donc de Enfants perdus. Alors je lis... C'est une maison de bord de mer d'un autre temps qui n'ouvre que pour les vacances. Chaque année, s'y retrouvent des enfants sous le regard d'un homme et d'une femme. Ils sont à cet âge où l'on joue encore à l'enfance, les bagarres, les réconciliations. Parmi eux, un garçon solitaire à la violence mystérieuse. L'été va se terminer plus tôt cette année-là.
C'est un petit texte de mon éditrice, Sylvie Gracia.
Je trouve que ça résume bien, enfin ça plante le décor.
Oui, voilà, c'est l'intérêt justement du quatrième de couverture.
Sans dévoiler, bien sûr, voilà. Donc comme précise la quatrième de couverture, donc ça se passe dans une maison au bord de mer. Donc là, rien n'est défini, mais on peut imaginer que ça se passe sur une plage de Normandie.
Voilà, c'est quand même, alors à la fois ça n'est pas précis et en même temps c'est très ancré dans une réalité. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. De ne pas brider complètement l'imaginaire du lecteur en disant c'est à tel endroit, à telle heure, etc. Et en même temps, que l'on sente bien que c'est enraciné dans quelque chose.
Voilà, donc un lieu donc de guerre, avec la guerre qui est encore proche, hein, sur ces plages de Normandie. Et puis alors les personnages, donc un homme et une femme dont on ne saura... pas plus de choses, hein. Bon, à part que l'homme a des cheveux blancs, mais que ce n'est pas par rapport à son âge qu'il a les cheveux blancs.
En tout cas, on ne peut pas en être sûr.
Oui, que la femme est petite et qu'elle a une voix douce.
Oui.
Hein. Et puis donc cet enfant solitaire qui est là chaque année, et toujours, il arrive toujours avant les autres, hein, dans cette maison de bord de mer. Donc comme ça, il reprend un peu ses repères chaque année. Il a son arbre. Il va dans le jardin. Enfin, il prend un peu ses repères. Et puis après, tous les autres enfants arrivent donc pour passer l'été. Donc on peut imaginer que ce sont des enfants qui n'ont pas la chance de partir en vacances l'été, qui sont un peu laissés comme ça, laissés pour compte, hein, on va dire. Et puis donc qui ont la chance de pouvoir passer un été agréable au bord de la mer, dans une maison avec des adultes qui proposent leur présence pour encadrer ces enfants, tous ces enfants-là, quoi.
Oui, on ne sait jamais exactement si ce sont des enfants abandonnés, des enfants, comment on dit, asociaux, des enfants sans parents. Peut-être parce que moi-même, je ne le savais pas. Et finalement, chaque enfant porte en lui toutes les traces de ces abandons-là. Même un enfant aimé, chéri, avec des parents, en un sens, est un enfant abandonné d'une certaine façon, au plus profond de lui-même, à cause de la solitude essentielle qui est la nôtre. Enfin, qui est...
Pour vous, la solitude, c'est quelque chose, voilà, c'est un thème qui est important pour vous, on sent, Arnaud Richner.
Disons que...
Vous avez été un enfant solitaire ?
Aïe, la question autobiographique qui tue.
J'imagine qu'il y a de l'autobiographie, vous disiez, voilà, il y a de la fiction, mais il y a aussi une part d'autobiographie. On imagine que peut-être l'auteur a été un enfant solitaire. Bon, c'est pas forcément mauvais d'être un enfant solitaire.
En tout cas, une des raisons pour lesquelles ce livre a été arrêté pendant 2-3 ans, c'est que j'essayais de régler ce problème de l'autobiographie, que ce ne soit pas un livre autobiographique, ça ne m'intéressait pas tellement. Alors maintenant, savoir si j'étais un enfant solitaire ou pas, je pense que tout le monde s'en fiche, mais oui, vraisemblablement. Un enfant à la fois solitaire et très socialisé, c'est-à-dire
j'avais la chance d'avoir
beaucoup d'amis, mais c'est pas incompatible, disons.
Non, c'est pas incompatible. Bon, on est toujours tout seul. Hein.
Voilà, c'est tout. On en revient toujours.
Pour résumer, en fait, voilà, c'est ça. Donc l'enfant lui-même, donc l'enfant dont on parle essentiellement dans ce roman, il a un ami qui est l'enfant à lunettes. L'enfant aux images, hein, qui a des lunettes, voilà, l'enfant qui compulse des catalogues comme si c'était des livres, des contes de fées.
Voilà, comme si, merveilleux, comme si les images lui permettraient de rentrer dans un autre monde. Alors ça, c'est un trait très autobiographique pour le coup. Pendant très longtemps, j'étais fasciné par les catalogues.
Voilà.
J'étais assis dans les couloirs du lycée et je regardais un catalogue d'articles de pêche.
Oui, en plus, voilà, c'est pas forcément un catalogue de jouets que regarde cet enfant. Ça peut être des articles de pêche, de la décoration, des meubles.
Voilà.
Et donc, il se lie un peu d'amitié, on va dire. Il y a un partage.
Entre les deux enfants.
L'enfant, le grand enfant, le plus ancien quoi, de la maison, lui apporte un catalogue. Et donc, il y a une idée de partage, de complicité. Enfin, un essai, tout du moins.
Oui, comme si le plus grand voulait essayer de rentrer dans ce monde de l'enfant à lunettes, passionné par les images, passionné par les catalogues. Et un accès au monde différent du sien, peut-être.
Et malheureusement, alors le temps nous rattrape, j'aurais voulu lire un petit passage, mais ça va être trop court. Mais alors je recommande vraiment à tous nos auditeurs ce livre, Enfants perdus, édité aux éditions du Rouergue, écrit par Arnaud Richner. Vraiment un très beau livre où le style épuré ne fait ressortir que l'intensité des mots, justement, et des images qui ne sont pas forcément toutes exprimées, mais justement le fait de ne pas exprimer les choses, ça ne fait que faire ressortir ce qu'on veut exprimer finalement.
C'est vrai que si le lecteur pouvait retrouver en lui des traces aussi de sa propre enfance, de ses petits moments d'enfance, petits éclats d'enfance, je serais assez heureux.
Bon, sauf peut-être la fin, on va dire, qui est pour certains malheureusement une réalité, hein, ou qui a pu être une réalité pour certains. Mais en tout cas, merci Arnaud. Des projets peut-être, juste pour un mot pour terminer.
Je viens juste de me remettre enfin à l'écriture après 6 mois d'arrêt. Et donc, j'espère un jour terminer celui que j'ai commencé.
Eh bien, on vous le souhaite et puis vous reviendrez nous en parler à page.
Et j'espère.
Merci à vous, Arnaud. On se retrouve la semaine prochaine. Restez fidèles à Radio Occitanie et à Dissiats.